création on air. On air. On air. Creation on air. Bonsoir. La ville a mené des Beaux-Arts de Paris à la Villa Médicis, puis à la Galerie Mag, jusqu'en 1995. Vous l'avez peut-être croisé, Galerie Christophe Gaillard. Un être androgyne, au regard acéré, qui prétend manger les plats dans le désordre, le dessert avant les fruits de mer. N'a pas peur du mauvais goût, aime la peinture, la vidéo, la radio. Écrit un blog nommé Days, faire un truc par jour, ou parfois est inscrit Repos. La ville a mené auprès de Nicole Stéphane, celle que Jean-Pierre Melville appelait Cocotte. Celle qui, à 70 ans, part avec Suzanne Sontag à Sarajevo pour tourner en pleine guerre. Celle qui s'est éclipsée le 14 mars 2007. Je vous écrirai après votre mort, Hélène Delprat, Véronique Lamandour, création On Air.
Oh, je sais pas.
Non, regardez
ce qu'il... Ah là là, il y en a encore témoignage. Attendez. Alors, René Alliot. Attendez, je cherche, hein, Frédéric Rossif. Le silence de la mer, une soirée...
Il y a avoir une page.
Eh ben...
Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Parce que dites-moi, Lucien.
Ben, j'ai...
Parce qu'il y a peut-être des choses qui vous intéresseraient.
Non, mais il y a des trucs un peu personnels, j'ai l'impression. Moi, je rentre... Il faudrait que vous le fassiez.
Je ne peux pas lire. Là. Qu'est-ce qui vous a donné le désir, l'envie de faire une chose sur moi?
Deux choses.
Disons un
NS. Le premier aspect, c'est-à-dire la première chose par laquelle je vous ai connue, c'est-à-dire
l'actrice.
C'est le côté, effectivement, le côté, comment on dit, un peu icône comme ça, quand on a été... Ben, si, Nicole.
Bon, d'accord. Pardon.
Permettez que j'ai une idée.
Non, mais merci.
Quand on vous permettez que je m'exprime. quand on voit les enfants terribles et quand on vous voit, quand on voit les gens qui étaient là-dedans, mais surtout, évidemment, vous et Édouard Dermite, faut bien dire, c'est des images tellement indélébiles. Parce que moi...
Je vous interromps.
Oui.
Je vous interromps, vous allez comprendre pourquoi.
Nicole Stéphane s'est cassé un œil.
Et moi, je suis déjà anéantie. Et ben, la différence, c'est pas une grande marque.
Nicole Stéphane a un œil plâtré depuis une semaine.
Je sais. Il y a la différence.
Comment c'est pas une grande marque? Et non, vous me donnez des choses qui ne sont pas des grandes marques, Nicole, mais je rêve.
Nicole, j'avais promis de vous écrire. Mais où êtes-vous? Très loin? Juste à côté? Me voyez-vous? Si c'est le cas, vous devez bien vous moquer de moi, submergée que je suis par ces documents, ces bandes accumulées pendant 4 années, perdues dans mes notes, mes interrogations, et terrorisée à l'idée de faire un film que vous n'aimeriez pas. Si vous me voyez... Vous voyez aussi le bonnet que vous m'aviez offert, la théière, les ciseaux. Nous sommes dimanche, peu importe pour vous maintenant. J'écoute et réécoute votre voix. Avance rapide, retour.
Oui, je me suis dit, tiens, l'histoire comme ça d'être très jeune, d'être engagée, de partir, ça je trouve bien, mais sans en faire... Donc, ce qui m'intéresse, c'est quoi? C'est... Vous avez quand
moi,
même une vie...
Moi, je déteste le côté ancien combattant.
Non, pas du tout, mais ouais. Ça vous risquez.
Non, mais je veux dire que ça,
vous
c'est
risquez
pour
pas.
Moi, c'est vraiment...
Vous risquez pas, mais vous avez une vie drôlement bien, quand même. Enfin, drôlement remplie, quoi. Enfin, pleine de rencontres. C'est pas mal, hein, je trouve. C'est ça que je me dis aussi. C'est que j'ai l'impression d'une vie intense.
Mais... Oui, je crois, je prends, mais enfin, finalement...
C'est pas tout le monde, hein.
J'adore ces cloches, hein. Ah, ça, c'est merveilleux, ici.
Nicole, je sais que la nuit venue, vous reviendrez dans votre chambre forêt vêtue de la cape noire, la cape aux oiseaux d'or du blason de votre enfance. Vous glisserez comme une sainte de procession. Cette procession où vous avez suivi votre mère, Cocteau, Édouard Dermite, Marguerite Duras, Suzanne Sontag et tous ceux qui vous manquaient tant. Death, comme vous disiez, est passé et vous a embarqué, vous et votre petite radio. Je me suis assise, j'ai pleuré et je me suis photographiée.
Et quand je revois mon passé comme ça, comme dans un couloir, je vois ces personnages qui surgissent que j'ai tellement aimé, j'ai tellement admiré.
des Jean Cocteau, des Jean Pierre Melville, des Luchino Visconti, Joseph Losey, enfin tant de gens comme ça que j'ai eu la chance de connaître, la chance de et bien d'autres que j'oublie, Ariane Mouchkine. C'est merveilleux de dans la vie se dire j'ai pu connaître des gens qui étaient fascinants.
Alors là, j'ai mis un bazar dans cet appartement, non, mais c'est la Bérésina.
Mais moi, je suis ravie, j'adore ça. J'adore quand on bouscule
ça. Ah non, mais à ce point-là.
Non, j'adore.
Oui.
Je vais peut-être prendre un sucre avec du café dessus.
Ah, bah voilà. Voilà. Attendez. Je mets le sucre dedans. Non, je mets le sucre dans la cuillère. Et du café sur la cuillère.
Voilà.
C'est ça que vous voulez?
Oui, attendez, je ne vais pas faire de bêtises. On met ça dessus.
Alors, c'est ça?
C'est ça.
Je peux pas le faire engueuler, moi. Hop, comme ça.
J'ai l'impression que vous parlez à une personne qui a 96.
Attention, c'est mal barré, Nicole. Hop. Non, mais j'ai peur de me faire crier. Alors, c'est bon, évidemment.
J'avais envie de vous téléphoner pour vous annoncer votre mort.
C'est froid.
Je me consolais en pensant que vous étiez contente de votre compagne de voyage, Lucie Aubrac. Partie le même jour. Nicole et Lucie, alors ça, c'est le chapeau de la fourmi. C'est ce que vous auriez dit. J'ai traîné toute la journée sous la pluie, c'est fini.
On dirait une petite souris qui fait croc-croc.
Je suis heureux d'avoir trouvé ici un vieil homme digne et une demoiselle silencieuse. Il faudra vaincre ce silence. Il faudra vaincre le silence de la France. Cela me plaît.
Diese von ihrer Liebe zu Frankreich so sehr beeinflusst, das ist die Gefahr. Aber wir werden Europa von dieser Pest heilen. Wir werden dieses Gift austilgen.
Selbstverständlich schmeicheln wir ihren Schriftsteller.
Il y avait des metteurs en scène, des personnes du cinéma qui venaient. Arrive un homme vers moi, je ne connaissais pas du tout, qui me dit, voilà, j'ai l'intention de réaliser un film, c'est le silence de la mer de Vercors, qui est un livre culte sur la résistance. Et je pense à vous en tant que nièce dans le silence de la mer. Alors je regarde, je connais. Mais je dis, mais monsieur, je vous remercie infiniment. Mais vous venez me voir dans une scène très violente, avec beaucoup de textes, et vous me demandez, parce que j'avais lu, je savais ce qu'était le silence de la mer, et vous me demandez de jouer le rôle d'une muette qui dit deux mots en une heure et demie. Mais c'est pour ça que je tiens ce soir vous. Ah bon? Un rendez-vous, et j'ai, comme vous savez, peut-être, fait jouer le silence de la mer. La nièce du silence de la mer.
Aber nicht zum Herrschen. Wir wissen sehr gut, eine Armee genügt nicht.
Ce qu'on ne sait pas, c'est le mal qu'il a eu à réaliser ce film. Non seulement il n'avait pas d'argent, mais surtout, Vercors lui a donné les droits que si le film passait, c'est-à-dire un droit de regard sur le film, devant 15 ou je sais pas une vingtaine de résistants, comme si il, pour lui, Jean-Pierre Melville n'avait pas fait de résistance, n'avait pas fait une très belle guerre.
Je faisais brûler dans l'âtre les bûches épaisses que je conservais pour ces jours-là. Ma nièce tricotait lentement d'un air très appliqué.
Ce qui était passionnant, ce qui m'a passionné dans ce personnage de la nièce, c'était une résistante à l'amour et une résistante tout court. Ça se rejoignait. Et ça, c'était fascinant. Bon, grande première de Silence de la mer avec tous les résistants, enfin beaucoup de résistants qui étaient là. Et c'était devant le président de la République de l'époque, un homme assez charmant, qui était le socialiste, M. Vincent Auriol. Bon, et j'étais à côté de Howard Vernon, J'étais très endimanchée, je ne sais pas si dire. J'étais habillée très gala. Et à un moment donné, Jean-Pierre Melville me dit, Cocotte, appelez toujours Cocotte, viens, je vais te présenter quelqu'un. Alors je le suis, et j'arrive, et je vois devant moi qui. Je reste absolument pétrifiée d'admiration, si je peux ainsi dire. C'était Jean Cocteau. Qui me dit, je suis très content de vous rencontrer, ou peut-être il me tutoie, je ne me souviens plus très bien. Parce que voilà, j'ai demandé à Jean-Pierre de réaliser Les Enfants Terribles, l'adapter avec moi, et vous serez Elisabeth. Alors là, c'est le plafond du théâtre qui vous tombe sur la tête, et c'est pas possible. Donc c'était ça, cette dualité entre ce que j'espérais, ce que je voulais faire, avec toute ma force, ma conviction, et qui était entravée, si je peux ainsi m'exprimer, par le destin. Qu'est-ce que vous faites avec le sucrier, là ?
Je le filme.
Mais j'ai bien compris.
Non, parce que je sais ce que je veux faire après.
Justement, c'est ma question.
Je sais, enfin. Parce que il va y avoir des moments, probablement, où il y a des choses très simples comme ça qui vont... Ça peut être un coquillage, je sais pas quoi, et après, vous allez parler et on va vous entendre derrière. C'est-à-dire que comme je veux en même temps faire votre histoire à vous et la tirer un peu à moi, je fais aussi ce qui m'intéresse, mais qui est quand même à vous, puisque ça, c'est à vous.
Avec votre caméra, vous filmez la nuit. Ça me rappelle Venise aussi, c'est le tournage de Mort à Venise avec
Ah ben oui, vous y étiez.
Je ne l'ai pas dit. J'aurais pu le dire, j'ai oublié.
Oh bon, on y reviendra. Non, là, je vais vous foutre la paix, hein,
Là, je peux plus, là.
Je vais vous foutre la paix.
Je le sens bien. Arrêtez, me foutre la paix, que c'est ce mot.
Oh, dites donc, vous dites merde. Vous dites des gros
mots. Non, mais le fait de me dire, vous foutez la paix, ça veut dire c'est comme si vous m'ennuyez.
Vous dites des gros mots aussi.
Oui, parce que j'oublie que vous êtes là.
Elle dit, bon, ben moi, je vais me recoiffer. Elle disait, c'est faussement glamourousse. Elle disait, mais non, c'est pas du tout ça. On ne se comprend pas du tout.
J'ai eu toute ma vie un handicap, surtout au début. C'est-à-dire quand j'ai commencé, après Silence de la mer, où le nom de Rothschild venait tout le temps. Oui. J'avais pas de mère, parce qu'on parlait à ce moment-là, les mères n'existaient pas. Bon, son père, Rothschild, etc. Les barons. Oui, baron de Rothschild. Et donc, ça a été un handicap terrible. Quand les gens, il n'y avait rien à faire. J'avais un mal fou à faire imposer. Imposer n'est pas le mot, mais que le nom de Stéphane existe. C'était le but.
Oh, ça, c'est pas mal le titre. Pour devenir actrice, la fille de Rothschild fait vœu de pauvreté. C'est ça, la presse. La presse, évidemment, c'était trop. C'est délicieux.
Ah oui, pour eux, c'était...
Là, c'est à l'envers. Non.
Excusez-moi.
Moi, j'avais les posters de Tyrone Power, de tous les acteurs américains de l'époque, de ma jeunesse, de mon adolescence plutôt. Mais je ne pensais pas une seconde, mais pas une seconde, je vous l'assure, de faire du cinéma. Pour moi, c'était mon idée fixe. Passer le conservatoire et peut-être aller à la Comédie Française, disons, hein, grosso modo. Donc, pour moi, cette période, c'était uniquement être comédienne de théâtre, faire le conservatoire. Fini l'armée, terminer la libération de Paris, terminer tout, c'était comme un acte au théâtre, il est terminé. Maintenant, que vas-tu faire ?
Ah oui.
J'ai pas fini. J'étais tout de même intéressée, je dis, le cinéma, c'est quand même quelque chose.
Non, ma fille, je ne deviens pas folle. Tu te trompes, c'est toi qui deviens folle. Moi, il faut que j'arrive à tenir jusqu'à la fin. Et la fin traîne, je dois la vivre. Ce n'est pas commode. Paul, écoute-moi, regarde-moi. Paul, tu m'écoutes ? Je sais que tu m'écoutes. Fais un effort. Elisabeth ! Ne lâche pas le fil. Calcule avec moi, calcule, additionne, multiplie. Je t'emmène, arrive, arrive, marche, marche et calcule. Ne lâche pas le fil, avance, avance. Je joue, je te charme, je t'hypnotise.
Tourtour était tous les jours à l'aise. Machiniste, il était à l'aise, c'était formidable. Il m'a beaucoup aidé Henri Decaire dans Les Enfants Terribles. C'est la scène de la folie avec un très gros plan où je parle face à la caméra. Enfin bon.
Dites-le.
Quand le drame vous crache à la figure. Voilà ce qu'il faut, voilà.
Il faut rendre la vie, non ?
Il faut rendre la vie invivable. Il faut, bref. Et donc j'étais face à la caméra et Henri Dequin avait la caméra en main. Donc je parlais face. Et ça, c'était très extraordinaire comme sensation. Et Jean-Pierre était derrière, pas aimable.
Ah oui, cette scène, elle devait être difficile. Combien de prises ?
Non, très facile.
Ah bon ? Combien de prises ?
Deux ou trois. Non, c'est pas...
Est-ce qu'il y a des jours où vous n'y arriviez pas ?
C'est quand Jean-Pierre m'a enfermé dans son bureau à clé. J'ai eu très peur, je vais me sauter dessus, mais que se passe-t-il ? Et il me dit, Cocotte, tu vas me tourner, me jouer cette scène à la Bette Davis. J'ai comment la Bette Davis ? Et le personnage d'Elisabeth, c'est exactement l'opposé de Bette Davis. Tu feras ce que je t'ordonne de faire, un truc comme ça. Mais je n'ai rien à m'ordonner. Je te suis, je t'écoute, je te demande, ça te convient. Mais je ne le ferai sûrement pas, mais tu le feras. Bon, ben, je vais le faire. Alors, je l'ai fait, c'était immonde.
Elisabeth, je voudrais que tu descendes.
Sans mal ?
J'aime pas te savoir au-dessus de moi.
Quel rageur !
C'est pour ça que tu refusais de descendre ? Qu'est-ce que c'est ?
Ben quoi ? Une pince à linge ? C'est pour avoir le profil grec.
Tu es folle.
J'aime mieux être folle que d'avoir le menton mou.
J'ai le menton mou ?
Oui, j'ai le menton mou ! Je devrais te mettre un élastique la nuit. Si j'étais toi, je ne me présenterais jamais de profil.
Laisse-moi dormir.
C'est pour ça que tu m'as obligée à descendre ?
Non.
Alors quoi ?
Lise, est-ce que le docteur pense que je suis perdue ?
Oh, tu es trop bête.
Lise, dis-le, je suis perdue ?
Perdue ! Laisse-moi tranquille et meurs. Je ne vivrai libre qu'après ta mort. Ton menton !
Lise, tu plaisantes ou tu dis la vérité ?
Je ne dis jamais la vérité.
Donc, alors on en était donc un paysage avec... Alors on va faire un paysage avec Cocteau, alors.
Il se trouve que Jean-Pierre Melville était malade, donc... Jean Cocteau l'a remplacé. Et quand il naît la nuit, pour voir comment se présentaient les choses, c'était un chat. Il arrivait, c'était un chat. On le voyait sans le voir. Un danseur, un chat. On soupait à minuit. Il venait en fait pour nous retrouver, presque tous les soirs. Et ça, c'était un cadeau de la vie. C'était... Mais c'est une autre vie, c'est une autre époque, c'est... Je me souviens très très bien, c'était une prodigieuse époque, mais tellement loin, tellement présent, et en même temps si loin. C'est comme dans un rêve.
Il fallait poursuivre sa tâche. L'instinct savait en elle que les meurtriers frappent coup sur coup, ne peuvent pas reprendre haleine. Araignée nocturne, elle continuait sa course, traînant son fil, étoilant son piège de tous les côtés de la nuit, lourde, légère, infatigable.
Il parlait de sa journée, il parlait de tout et de rien, et toujours avec ce sourire, avec ce rire tellement particulier de Cocteau. Pas du tout le Cocteau que je voyais, quand je venais une fois par semaine le retrouver chez Francine Weseler. J'habite au quatrième. Et oui, un jour comme ça, c'était très agréable. On était dans une pièce comme une sorte de petite bibliothèque. Petite pièce, la moitié de cette pièce. Et Francine dit à Cocteau, Nicole n'a jamais eu quoi que ce soit de vous, Jean. Ce serait bien que vous lui fassiez son portrait. Mais avec plaisir, il a pris une feuille de papier, il a pris un crayon. En l'espace de 5 minutes, avec quelques traits, boum, 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 et j'ai eu ce portrait qui est fabuleux. Je sentais qu'il m'aimait bien, je sentais que tout était dit sans rien dire, tout était dit dans le silence, c'était très, très élégant.
Paul !
Ah, oh, c'est confondant. Jamais je ne me serais doutée.
En voilà une surprise. Ah, ça, j'adorerais que vous le redisiez. Je l'ai trouvé. Ah, c'est confondant.
Ah, c'est confondant.
Voilà une surprise.
Il n'y a rien à faire.
C'est confondant.
J'ai adoré Paul dès la première minute.
Voilà une surprise.
Et confondant.
C'est confondant.
Dors et ne bouge pas de ta chambre. Lise Laisse-moi.
Dès lors, la jeune femme ne devait plus s'interrompre. Son cœur battait à coups de hache. Elle ne pensait aucune pensée conforme à sa démarche. Le génie de la chambre se substituait à elle, la doublait, comme n'importe quel génie s'emparant d'un homme d'affaires lui dicte les ordres qui empêchent la faillite. D'un marin, les gestes qui sauvent le navire. D'un criminel, les actes qui établissent un alibi.
Toujours, elle disait Cocteau. Dans Les Enfants Terribles, elle dit « Tiens, ces fleurs sont affreuses, ça me plaît, elles sont fausses, on va les mettre dans l'eau. » Elle disait « À Tel Aviv, on a filmé la mer depuis notre chambre. Personne ne le sait, mais c'est devenu un plan des enfants terribles. » Elle raconte la première des enfants terribles au cinéma Le Colisée et ce que lui dit sa mère à la sortie de la projection.
« Tu ne trouves pas qu'on te voit trop générique ? Je vous jure que c'est vrai. » Alors là, ça a été un coup de couteau, je peux vous dire, un coup de poignard. J'ai dit, maman, c'est tout ce que tu trouves à me dire, toujours en traversant les Champs-Élysées. Non, tu es bien, mais enfin, je trouve qu'on te voit trop ton nom.
Elle disait, c'était comme le javelot qui transperce le corps de Cocteau dans le testament d'Orphée.
Je crois que je vous ai raconté la gifle à Jean-Pierre Melville, oui, je vous l'ai raconté.
Ah oui, ça c'est un grand moment.
Oui, mais le grand moment, ce qui était drôle, c'est qu'il y avait donc une salle de projection et je tombe sur les monteuses qui me disent, Jean-Pierre est très mauvaise humeur, il est dans la salle de projection, il y a Francine, il y a Doudou, enfin, j'ai l'air du son, etc. Et bon, et j'arrive, gna, comment vas-tu, cocotte, tata, voilà. Et puis il me dit, regarde... Tu vas me dire quel est le plan que tu préfères. Ça m'intéresse d'avoir ton avis. Et moi, comme une idiote, je dis celui-là, sans savoir quoi que ce soit. Oui, bien sûr, tu as fait exprès, c'est celui de Jean Cocteau, ou Cocteau. Il commence à devenir odieux, une espèce de jalousie ridicule. Et puis ça monte, et je dis, écoute, Jean-Pierre, tu n'es qu'un salaud, pan ! Et je le gifle. Et lui me donne, je ressens encore un coup de poing que je reçois là. À ce moment-là, je vois arriver Francine Weseler, qui était fluette, petite et fluette, qui prend un cendrier qui pèse des tonnes dans des salles privées et ouvre les bras en croix et dit « Ne la touchez pas, ne la touchez pas !» Avec le cendrier là, comme ça. Et moi, j'étais derrière et je suis partie. Alors, bon, pendant 12 ans, j'étais brouillée avec Jean-Pierre Melville. Et un jour, j'étais plus comédienne, j'étais productrice. J'avais produit Après mourir à Madrid, La vie de château, le premier film de Jean-Paul Rapneau. Et j'étais avenue Georges V, je conduisais, et je vois une voiture, une grande limousine qui arrive sur la droite, qui me coince, qui se pique devant moi. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce fou? Et je reconnais Jean-Pierre Melville. Cocotte, et je te félicite. Tu as produit un formidable film. Et on s'est retrouvés 12 ans après, comme si on s'était quitté la veille. 12 ans sans se voir. ou disait des choses très désagréables sur moi. Vous pouvez imaginer, giflé en plus par une femme, ça c'était bon. Donc on s'est revus, c'était merveilleux.
Nicole, je crois que vous n'avez jamais pris au sérieux mon admiration pour vous. Je ne parle pas de cinéma, je ne parle pas de l'héroïne que vous étiez. Je ne parle pas de l'icône que vous êtes. Je ne parle pas de Visconti, Toscanini, Chaliapin, Patti Smith, François Truffaut, Delphine Seyrig, Alain Delon ou Jean-Luc Godard. Je ne parle pas de Franju, je ne parle pas de Cocteau. Je ne parle pas de Joseph Losey, d'Harold Pinter, Malraux. Non. Je parle d'avant. Avant, Nicole. Vous êtes un héros. Ne râlez pas. Je parle des forces françaises libres. Je parle d'engagés volontaires. Vous étiez quand même gonflée, Nicole. Si jeune, encore adolescente. L'armée, la résistance, la guerre. Vous êtes une héroïne et un héros tout à la fois. Merde alors. C'est pas rien. À peine fini le tournage des Enfants Terribles, vous n'avez que 22 ans. Et filer en Palestine pour interviewer Ben Gourion, filmer les combats, la Burma Road. Vous battre, foncer, filmer, enregistrer, témoigner. C'est ce que vous ne cesserez de faire jusqu'à la fin, encore et encore.
C'est à 16 ans que j'ai appris que j'étais juive. Ça fait un choc. Dans le bon sens, hein, je ne dis pas un choc, mais un choc en disant comment se fait-il que... Alors après, quand j'ai appris, je mettais des étoiles de David dans ma chambre. Et puis après, bon... Pour pas dire, j'ai aucune formation religieuse.
Absolument pas, mes parents n'étaient pas.
Si, ma grand-mère un peu.
The main task of state of Israel, sir?
There are three main tasks. One is to rebuild the country and bring back its former prosperity. The second is to enable all the Jews in the world who cannot stay or wish not stay where they are to come back to their ancient homeland.
C'était, il y avait donc la guerre en Palestine. C'était au mois de mai 48. Et j'ai dit un jour, c'était entre le silence de la mer et les enfants terribles. Et j'ai dit à Jean-Pierre Melville, voilà, je ne fais rien. Et je vais aller en Palestine comme correspondant de guerre. J'y tiens parce que je me sens juive et il faut que je fasse quelque chose là-bas. Donc Jean-Pierre me dit, cocotte, tu n'iras pas. J'ai dit, comment je n'irai pas? Non, parce que j'ai l'intention que tu fasses un film et tu iras avec Henri Dequin. Mais je dis, mais c'est formidable, merci Jean-Pierre. Il me téléphone quelques jours après en me disant, j'ai appris qu'Arthur Koestler part pour faire un article pour trois journaux. Et ils partent demain ou après-demain. Et vous allez partir ensemble. Et les choses se sont réglées en moins de deux. Et ça aussi, c'est extraordinaire. C'est étonnant, c'est-à-dire que je suis partie avec le plus grand opérateur du moment, qui était l'opérateur du Silence de la mer, des Enfants terribles et des films de la Nouvelle Vague. Il a fait le premier Truffaut, enfin bon, ce qui était Henri Dequin, qui était un homme exquis, qui est vraiment un homme merveilleux, et nous sommes partis. Et c'est là où nous avons habité dans un petit hôtel qui donnait sur la plage, les Dan Hotel. Et c'était très impressionnant d'arriver dans ce pays comme ça, en DR. Et nous étions dans cet hôtel, au sous-sol, et tous les permissionnaires qui venaient et qui chantaient en hébreu. Le front était à 30 km. Et je me souviens, il y avait un jeune homme qui avait mon âge, peut-être plus jeune, 20 ans, qui était américain, un juif américain. Et on a passé la soirée ensemble en prenant au Nagral des sons. Enfin, on a travaillé avec ses permissionnaires. C'était très émouvant parce qu'ils chantaient en plus très bien. C'était surtout des chants d'origine russe, polonaise. Et ce jeune homme, à la fin de la soirée, me dit « Je veux t'épouser. Je voudrais me marier avec toi. » Et je regarde devant Henri Decaux, je lui dis « Oui, d'accord. » Et Henri Decaux me regarde effrayé en se disant « Le couple pour folle. » Et il est venu vers moi en disant « Ne fais pas ça. » Et je lui dis « Si, parce que il va se passer quelque chose, il faut que je fasse. » J'ai peur pour lui, quelque chose comme ça. Et finalement, je lui ai dit, non, je ne peux pas, parce que je repars, ce qui est vrai, enfin bon. Il est parti, et il est mort 15 jours après. Alors j'ai eu tout de même beaucoup de regrets. Parce qu'il serait parti au moins avec un espoir, avec quelque chose.
Elle disait, vent printanier, c'est joli, non ?
Ah oui.
C'est le code pour la rafle du Veldiv. Elle disait, vous savez, Hélène, il faut se préparer. Elle disait, emportez ça, et ça, et ça, et ça. Et ça, c'est pour vous.
C'est faux.
Mais pas du tout, vous chantez bien.
Mais pas du tout. Puis ça s'en va en l'air. Après, je peux plus.
C'est dommage, mais ça y était quand même.
Vous l'avez pris ?
Bah, bien sûr, je me suis gênée.
My Yiddish mama.
Vous avez enregistré cette horreur.
Oh, I need her more than ever now. My Yiddish mama. I'd love to kiss that wrinkled brow. I long to hold her hands once more. As in days gone by, and ask her to forgive me for things I did that made her cry. How few were her pleasures. She never cared for fashion style. Her jewels and treasure, she found them in her baby's smile. Oh, I know that I owe what I am today to that dear little lady, so old and gray.
L'auteur du Zéro et l'Infini est la descendante des Rothschild.
Tout ce que j'aime.
Vont chasser les images en Palestine.
Chasser les images. Quel crétin qui écrit ça.
Arthur Kessler et sa femme ont accepté de collaborer à la réalisation d'un documentaire cinématographique sur les événements de Palestine. Deux membres de l'équipe de Jean-Pierre Melville, le metteur en scène du Silence de la mer, sont partis avec eux. Il s'agit de Nicole Stéphane, de son véritable nom.
Ah non, j'étais poursuivie quand je vous ai dit je suis poursuivie par ce nom.
Nicole Rothschild.
Et Henri Decaux.
Et Henri Decaux, caméraman.
Voilà. On tourne.
Je suis pas maquillée, peut-être que je me maquille un peu.
Non. Oh non!
Il fallait vraiment se battre pour pouvoir filmer, être en première ligne, ou tout au moins être avec les combattants. Donc il fallait des sauve-conduits, tout ça n'était pas simple, parce qu'il y avait une résistance. Mais quand même, ils ont compris. Puis, ce qui était important, c'est que quand ils ont entendu que j'avais interviewé Ben Gourion, qui était ce personnage mythique, pour eux, ça m'a beaucoup aidé pour ma facilité, nous a facilité, Henri Decaen et moi, pour faire des choses plus intéressantes. Et ce qui paraissait le plus intéressant, c'est historique, c'est la fameuse route de Burma Road. C'est-à-dire, la route de Tel Aviv et Jérusalem était coupée. Et ça, c'était très inquiétant, parce que c'était le passage des armes, du ravitaillement. C'était vital pour Jérusalem, vital pour l'armée, enfin l'armée. Et nous sommes arrivés justement en filmant cette fameuse route et en arrivant jusqu'au bout. Et on a pris justement des passages d'armes, des soldats, tout ça dans la montagne. Ça, je me souviens de ça. C'était héroïque, c'était... Je suis retournée et j'ai fait un film, réalisé un film de 13 minutes sur la guerre des six jours. C'est pas que dès que je voyais une guerre, je me précipitais, c'est pas ça. Mais je pensais que c'était intéressant, puisque ce que j'avais fait en 48 avait été brûlé, de faire deux ou trois visages, trois dates, trois visages d'Israël. Et après j'ai demandé... à Susan Sontag de réaliser alors un film d'une heure et demie en 73. Ça, c'était très très rude. Et j'ai pu le produire, qui s'appelait Promised Lands, Terre promise au pluriel.
Nicole, Georges Bizet était le nom de mon grand-père et aussi celui de la clinique où vous vous êtes éteinte. On vous a ramené chez vous. J'avais la curiosité malsaine de me demander comment cela se passait et à quelle heure. J'imaginais une cérémonie nocturne, un peu secrète. Vous savez, un truc à la Peter Cushing, avec du brouillard et des bruits de pas. Il n'y avait que la rue à traverser et 5 étages à monter pour rejoindre votre chambre. J'avais peur que l'on ne manque de précautions. J'avais peur. J'avais peur que l'on ne vous étouffe d'écœurantes fleurs de deuil au parfum douceâtre. Je ne savais pas qu'il arriverait si vite, le jour où le téléphone ne sonnerait plus à 22h, le jour où j'irai prendre chez vous les objets à mon intention. Il y a votre loupe sur la petite table noire. Mon vélo est toujours chez vous, dans l'entrée. Chez vous, où vous êtes revenus, les yeux fermés, la bouche close.
J'ai toujours pensé que je vais m'engager en tant qu'engagée volontaire. On était ce qu'on appelle des engagés volontaires. Il y en avait peu. J'étais avec ma sœur. Ma sœur et moi, nous sommes restés dans ce qu'on appelle l'école des cadets, c'est-à-dire l'école des officiers de la France libre, se trouvait dans le centre de l'Angleterre, à Ribesford. C'était extrêmement rude. Pour les garçons qui étaient là, qui avaient tous 20 ans, 19 ans, qui étaient très très jeunes, qui avaient absolument interdiction de parler aux volontaires françaises, on était 6, et on s'occupait du standard, on s'occupait de... Moi j'allais tous les matins faire le ravitaillement, parce qu'on était presque 200. Et...
Oui, vous me disiez...
Oui, les femmes anglaises étaient mobilisées, ce qu'on ne sait peut-être pas, et j'étais dans un camp... caserne, une énorme caserne, ont été 2000 femmes. Et tous les matins, disons 50 ou 100 femmes faisaient ce qu'on appelait du drill, c'est-à-dire savoir marcher, marcher quand on est soldat, comme les hommes, comme le défilé du 14 juillet, pour donner un exemple. De la même façon, les Anglaises sont un autre style que les Françaises, ou les Françaises, quoi. C'est encore plus plus fatigant, moins joli, je trouve. Bon, donc il fallait absolument se mettre au pas, etc. Et moi qui avais horreur de marcher, j'avais déjà marché dans les Pyrénées, j'ai marché quand j'étais dans l'armée, etc. Et alors là, je me suis dit, je ne vais pas continuer à faire des choses aussi ridicules. Je ne suis pas dans l'armée pour faire ça. Moi, je voulais être une héroïne, je voulais faire des choses sublimes. Alors j'ai décidé de passer à l'examen, je voyais ce que ma mère faisait, je voyais surtout les femmes qui travaillaient avec elle, qui étaient dans des endroits très dangereux et qui faisaient des choses admirables. Et donc j'ai passé cet examen, pas si facilement que ça, mais enfin quand même, et je suis devenue sous-lieutenant et j'ai pu à ce moment-là faire des choses passionnantes, c'est-à-dire aller en Allemagne, m'occuper des prisonniers.
Il disait, l'arrière du bateau s'est ouvert, j'ai débarqué au volant de ma Jeep. Elle disait, c'est pas un peu prétentieux ce que je raconte.
J'aimais beaucoup conduire, donc j'ai eu le permis de 15 tonnes, de 10 tonnes, de 5 tonnes. Permis moto, très important, j'ai été dispatch rider à Londres après. J'ai également un permis de chenillette. Ah, ça, c'est formidable. Eh bien, on faisait, sur le terrain de manœuvre, on vous expliquait comment d'abord ça fonctionne. Ça fonctionne avec comme ça, à droite et à gauche, forcément. Il y a des manettes. Alors, à droite, on appuie, je ne sais plus si on tire, on appuie ou à gauche. Donc, on a pu faire ça. On a également fait du tir. Enfin, le béaba, si vous voulez, d'un soldat, quoi.
Elle disait, j'ai peur de faire ancien combattant. Ça ne fait pas ancien combattant ? Répondez-moi.
Vous faites un...
Elle disait, mais qu'est-ce que j'ai pu faire comme connerie ?
Un travelling.
Elle disait, c'est merveilleux la vie.
Vous moquez pas. Non.
Elle disait, c'est le destin. Ah, elle disait, moi, Lacan, ça me fait peur. Je préfère Bibi Fricotin.
J'ai toujours eu besoin d'être avec des personnes plus intelligentes et plus cultivées que moi. Je dis, vais, vite-toi. Ah, je vois... Bon. A. Asile.
Alors, B.
B. Débarquement.
Oui, mais B, c'est pas un D.
Non, bien, nous sommes d'accord, mais c'est... Ce qui me vient à l'esprit, c'est... Barquement. Parce que sur débarquement, le barquement est beaucoup plus long et beaucoup plus fétide dans ma mémoire que D.
D.
D. Ou B. B.
D.
P.
D. Et si vous dites barquement, vous êtes puni.
Non, je ne le dirai plus. G. Il y a un mot qui me vient à l'esprit, mais je déteste, alors je ne le dis pas. Grotesque.
Pourquoi grotesque ?
Parce que tout ce qui est grotesque me fait peur. Grotesque, c'est tout près pour moi de la... C'est pas tout près, c'est plutôt l'asile, c'est les malades mentaux. Ça va avec gesticulation aussi, d'ailleurs, ce qui est curieux.
Elle disait, ça c'est le chapeau de la fourmi.
En fait, maintenant je vais vous poser une question parce que c'est même plus simple pour moi.
Oui.
Qu'est-ce qui vous intéresse dans ces entretiens, en ce qui me concerne? Qu'est-ce qui de moi, le fait que vous ayez eu, et c'est un honneur pour moi, ce désir de faire cela, qu'est-ce qui a fait que vous avez le désir de le faire?
Je ne sais pas.
Ah.
Je sais qu'il faut que je le fasse, mais je ne sais
non,
pas...
Non, mais je veux dire que j'ai très peur que, en ayant écouté ce que j'ai dit là, c'est chiant. J'ai peur que ce soit chiant. Alors,
Oui, mais forcément, c'est chiant si on écoute la totalité. Il y a des morceaux plus intéressants que d'autres, mais ce n'est pas chiant. Le truc, c'est que pour le moment, ça n'a pas d'ossature.
La prochaine fois que nous nous voyons, dans quelle
Comment
direction...
on fait? Est-ce qu'on revient?
Qu'est-ce que par exemple, je voudrais vous parler du Mourir à Madrid que je n'ai jamais pu écrire.
On peut faire ça?
Vous avez trouvé ça comment? Dans le film.
C'est dans le mourir à Madrid. Toute la guerre d'Espagne, c'est ça. Ah, vous voyez les brigades internationales qui arrivent comme ça. Et il me semble qu'il y a Suzanne Flon qui parle et ça en dessous.
Donc j'étais dans la production à ce moment-là. J'avais fait du court-métrage. Et j'avais jamais fait de long-métrage. Produit de long-métrage. Il me dit, voilà, j'ai une idée. Je voudrais faire un film sur la guerre civile d'Espagne. Espagnol. Et je voudrais l'intituler « Mourir à Madrid ». Et j'ai trouvé ce titre extraordinaire, très impressionnant. Et tout le monde me disait « Mais c'était complètement folle de produire un film sur la guerre d'Espagne. »
À partir du moment où Frédéric Rossi vous dit « J'ai envie de faire mourir à Madrid », voilà, qu'est-ce qui se passe ?
Bon, à partir du moment où on décide de le faire, je décide de le faire, comme j'étais la productrice, je m'occupais de la production, je pouvais monter plus facilement ce qu'on appelle la pré-production. Et en ce qui concerne les comédiens, c'était Pierre Vanneck, c'était Jean Villard, que j'avais connu quand j'étais assistante de Georges Franju, quand il a réalisé le Théâtre National Populaire, la musique de Maurice Jarre, donc si vous voulez, tout le groupe TNP, Suzanne Flon, mais c'est différent, qui dit le très beau texte sur les brigades internationales. Donc, si vous voulez, il y avait toute l'âme aussi du Théâtre National Populaire qui était dans ce film. Comme ça. Et Frédéric Rossif, qui avait cette espèce de séduction apparente et séduction dans l'intelligence, sa façon de parler avec son accent, c'était un personnage assez considérable. Et on s'entendait bien. C'était pas facile, mais on s'entendait bien.
Vous êtes parti à combien de personnes ?
On est parti avec le minimum pour pas qu'on se fasse justement. On était comme une équipe de court-métrage, si vous voulez.
Alors vous avez...
Parce qu'on tournait officiellement pour le gouvernement espagnol, c'est-à-dire Franco, un court-métrage sur l'Espagne éternelle.
Mais comment ça s'est passé ? En fait, à l'époque de Franco, aller en territoire espagnol pour filmer quelque chose, comment prépare-t-on ça ?
Eh bien, on prépare ça en faisant des démarches auprès du gouvernement espagnol, disant nous allons faire un court-métrage réalisé par M. Frédéric Rossif sur l'Espagne éternelle. Rien déjà à Espagne éternelle, ça a fonctionné très bien. Donc on a eu des papiers officiels, on pouvait aller partout. Et en même temps, on tournait le fameux car dont je vous ai parlé pour mourir à Madrid.
Mais ils ne vous ont pas demandé...
C'est pour ça qu'ils ont été fous de rage quand ils ont appris que le film existait.
Mais ils vous ont pas fait accompagner par quelqu'un pour surveiller
un peu ? Oui, mais toujours pour le court-métrage. Ils n'ont jamais imaginé qu'on allait faire un film sur la guerre d'Espagne. Inimaginable. Donc on était dans la clandestinité, ce qui nous apportait... C'était encore un élément, si vous voulez, supplémentaire.
Oui, et à quel moment donc le gouvernement espagnol a... Un petit peu...
Alors, le gouvernement espagnol s'est inquiété énormément, mais ils étaient prêts vraiment à payer le maximum pour détruire le film. Et 25 coupes, ils ont demandé 25 coupes en passant par le ministère des Affaires étrangères. Ça a été une grosse affaire, ça a été... qu'on n'imaginait pas, que ni Rossif, ni moi, ni personne pouvait imaginer une chose pareille.
Il disait, le film a été dédié à tous les caméramans qui sont morts en filmant la guerre.
J'ai vu une chose passer devant moi, Nicole.
Il dit qu'hier, il y avait autour d'elle les fantômes de ses amis. Tous parlaient par impulsion électrique. Elle parlait d'un cauchemar réveillé. Des lettres lumineuses clignotaient lentement et formaient le mot « famille ». Elle dit, cette nuit, j'ai donné des leçons de piano à Buñuel pendant que vous prépariez le thé.
C'est une mouche, mais vous dites ça toujours sur un ton, c'est à mourir de rire.
Mais vous me faites rire.
Non, mais je ne sais pas, qu'est-ce que vous faites avec cette boîte ?
Je sors mon revolver et je vais mettre des cartouches dedans. Et je vais vous assassiner.
Quelle bonne idée.
C'est la vidéo de Détruire Vittel.
Je trouve que le premier devoir d'un révolutionnaire actuellement, c'est de combattre l'Union soviétique. Si vous ne consentez pas librement à la révolution, vous n'y consentez pas.
Capital,
c'est
ça.
Faux. Et tout est truqué. C'est pas la peine de la faire. C'est affreux ce qui se passe en Union soviétique. C'est le plus grand échec du siècle. Après avoir été le plus grand espoir.
On peut arrêter cette phrase,
hein? Oui, de toute façon, c'est la fin.
Non, mais c'est extraordinaire. J'avais complètement oublié ça.
J'avais oublié qu'elle l'avait dit là.
Ah oui, à ce moment-là.
Mais à ce moment-là, c'est... Vous faites un cadeau extraordinaire, là, Hélène. J'en ai des frissons, Non, mais je vous jure, j'ai froid,
Non, mais c'est...
De revoir Marguerite là, j'ai envie de pleurer, vraiment. Je suis émue, Je vous ai assez mal dit, mais j'ai essayé de... Dans mes souvenirs, de retrouver justement cette sorte... Excusez-moi de ce mot, mais c'est ça, symbiose entre les comédiens... Entre elles, surtout elles, et les comédiens. Les comédiens devenaient elles. Ils posaient des questions, Marguerite, qu'est-ce que tu penses? Ou qu'est-ce que vous pensez? Ben voilà. Mais ça, c'est bon. C'est ça, c'est comme ça. Fais-le comme ça. Je retrouve des trucs comme ça, mais c'est loin. J'allais pratiquement tous les jours voir Marguerite Duras. Expliquer aux comédiens, je les voyais, ils étaient assis, mais ils écoutaient, ce qui était formidable, c'est l'écoute du comédien quand il sait qu'ils vont faire un truc très important, avec une personne très importante, qui était jetée au chien, c'est vraiment le mot. Hein.
Et comment elle était, enfin, l'atmosphère donc, du tournage.
Formidable. Tranquillou, tranquille. Mais j'étais, si vous voulez, ce qui était important pour moi, c'est que Marguerite Duras, et c'est le rôle du producteur, soit heureux de faire leur film. Ça, c'est la chose la plus importante. Et Marguerite Duras, l'écrivain, donc c'était plus pour moi qu'un réalisateur. Ça roulait, vous voyez ce que je veux dire?
Ça va, Nicole, vous voulez que je m'en aille? Vous en avez marre?
Mais non, monsieur, c'est formidable. Je suis en train de voir si je peux continuer. Je suis analphabète.
Oui.
Je suis... Non, mais tout ça, je me rends compte. Je suis immature. Je suis... Non, mais je pense...
Pourquoi vous dites que vous êtes immature?
Par rapport à quoi? Par rapport à la vie, je suis immature. Je suis encore immature.
Oui,
c'est-à-dire que de temps en temps, je suis encore dans l'adolescence ou dans l'enfance, ou je suis un peu partout, je navigue comme ça. C'est l'immaturité que j'ai encore. Je ne dis pas que je suis complètement immature, alors je serais débile. Mais sans aller là, j'ai des trous comme ça, je me connais bien.
Oui, mais je trouve que quand vous dites « je suis immature » parce que l'enfance...
Autodidacte, immature, ça c'est deux choses que j'ai en moi. Alors je suis en train d'essayer de l'extirper pour le mettre de côté, pour ne pas donner cette impression...
Mais c'est ça, mais justement, je veux avoir cette impression.
Чекаючи Godoa у Сараево. Waiting for Godot in Sarajevo.
À Sarajevo, quand j'ai appris que Susan Sontag y était et mettait en scène des Bosniaques pour jouer la plus belle pièce de Beckett En attendant Godot, j'ai tout fait pour y aller et j'ai eu exactement la même force, le même désir d'y aller, que quand je suis partie, j'ai dit à Jean-Pierre, je vais aller en Palestine. J'y pense maintenant. C'est la même fougue, la même force, le même désir. Je me suis beaucoup battue pour y aller et j'ai trouvé un producteur, j'ai trouvé deux caméramans, tout ça en 10 jours. Et ce qui était étonnant, c'est la stupéfaction de Susan Santa quand elle m'a vu arriver dans le lobby. Et j'ai pu faire ce film en attendant Godot à Sarajevo. Alors ça prouve que on est dans un certain mouvement et qu'il faut... C'est ça qui est passionnant dans la vie, c'est de retrouver peut-être son propre destin, tout au moins faire ce dont on a envie, qu'il faut le faire. On pense que si on ne le fait pas, on n'est pas bien avec soi-même.
Voilà, Nicole. J'aurais voulu vous connaître bien plus tôt et partir avec vous pour filmer Sarajevo. Vous n'avez jamais voulu me suivre au veau de Cernay où vous avez grandi. J'étais donc allée filmer seule. C'était un endroit bizarre, une place forte, impressionnant, désagréable. Je n'ai pas aimé ce paysage, Nicole. J'ai photographié des champignons, des feuilles mortes, des détails sculptés de la salle des moines, la chapelle abandonnée. Je vous imaginais à la tombée du jour au pavillon chinois près des pierres tombales des chevaliers. Mais que pouvait faire une enfant dans cet endroit menaçant? Que pouvait-elle vivre là, sous le bec des oiseaux du blason? Je vous entends me répondre. Cette enfant-là vivait Proust. Elle vivait la recherche, sans le savoir. Nicole, ce soir j'ai envie de rire avec vous, de vous parler, de vous entendre. Vous êtes là-bas, et cette pensée me glace. Mais où donc est-ce là-bas? Je vous embrasse.
Plusieurs fois, j'étais vraiment tout près de la mort. J'étais, ce soir, en Israël, à Sarajevo, enfin bon, peu importe où. Mais vraiment, et j'ai toujours, enfin toujours, puisque je suis là à cet âge, j'ai jamais eu peur. J'ai fait des choses jamais en ayant... J'ai fait avec conviction dont je ne pensais pas une seconde. Mais après, en y pensant, je me dis, mais je suis complètement folle. Enfin, c'était vraiment... C'était trop. Il fallait le faire.
Elle disait, mon Dieu, quel délice, un martini blanc. Nicole, vous n'êtes plus là. Cette nuit, il y a un vent fou. Je pense à vous sous les arbres agités. Dans le taxi, je filme. Je filme parce que je suis triste. Vous ne serez plus jamais là. J'ai envie de vous téléphoner, comme avant. Je vous embrasse, comme vous le faisiez en avançant vers moi, tête baissée. Vous pressiez mon épaule plus que vous ne m'embrassiez. Vous m'aviez dit que j'étais comme la fille que vous auriez aimé avoir, et j'en étais fière. A displaced daughter for a displaced person. Une fille déplacée pour une personne déplacée. Je ne peux vous laisser disparaître comme ça, Nicole. Voilà, je crois que c'est le moment. Je commence le film. Je vous écrirai après votre mort. Nicole Stéphane, De la guerre à Melville, de Cocteau à la guerre. Un documentaire de Hélène Delprat et Véronique Lamandour. Les entretiens filmés avec Nicole Stéphane ont eu lieu de 2003 à 2007. Avec des extraits des films, Le silence de la mer, Jean-Pierre Melville, Les enfants terribles, Cocteau Melville, Promised Lands, Susan Sontag, Détruire, dit-elle, Marguerite Duras, En attendant Godot à Sarajevo, Nicole Stéphane. Mixage, Bernard Laniel. Création en air, attaché de production, Chouchan Djergaïan. Coordination, Irène Omelianenko.
Ce portrait est disponible un an en podcast et à vie sur notre site. La semaine prochaine dans Création On Air, Mercredi, ce sera avec Marceline Loridan-Ivens par Judith Pérignon. Jeudi, Dialectique sauvage, le cheminement d'un homme à travers ses identités poétiques par Élise Gruau. Place à Philippe Garbi pour les nuits de France Culture.